Alors, on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus au livre de l'Apocalypse. Alors, probablement ça va nécessiter probablement deux leçons. Alors, on achève cette série-là. Alors, dans notre étude de l'Apocalypse, on va étudier les points suivants. L'arrière-plan du livre, donc l'auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition du livre, le contenu, son but principal, ses thèmes, le plan du livre et aussi quelques observations. Alors, notre premier point, c'est vraiment l'arrière-plan de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Diverses raisons ont dû jouer pour lui assigner cette place. Le reste du Nouveau Testament se rapporte principalement au passé ou au présent. L'Apocalypse est essentiellement tournée vers l'avenir. D'autre part, elle constitue une sorte d'apothéose finale qui non seulement prononce les derniers mots du Nouveau Testament, mais résume en une fresque grandiose tout le contenu prophétique des enseignements de Jésus et des révélations apostoliques sur la fin des choses. Bossuet disait que toutes les beautés de l'Écriture sont ramassées dans ce livre. Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, les thèmes essentiels de la révélation ne sont traités aussi complètement et avec autant de force. L'auteur. La tradition apostolique unanime voit en l'apôtre Jean le disciple bien-aimé du Seigneur comme auteur humain. Maintenant, les destinataires. Jean adresse son livre aux sept églises le plus proche de la côte, peut-être situées le long d'une grande route circulaire et mentionnées dans l'ordre de distribution. Elles étaient sans doute les plus directement menacées par la persécution. La province d'Asie s'était depuis longtemps distinguée par son zèle pour le culte impérial, et à l'époque de Domitien, la persécution fut particulièrement sévère. Ce livre était en premier lieu la réponse de Dieu aux problèmes de ces chrétiens, à leurs prières et à leurs larmes. Mais par-delà ces églises, le dernier message de celui qui est et qui vient s'adressait aux croyants de tous les temps, particulièrement à ceux d'entre eux qui passeraient par la tribulation. La persécution de la dernière décennie du premier siècle préfigure celle de la fin des temps. C'est cette église d'Asie, si diverses par leur composition, leurs problèmes et leur situation spirituelle, représentent l'Église dans son entité. Souvenons-nous que le nombre 7 symbolise la plénitude. C'est pourquoi il déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites ». Si de tout temps l'Apocalypse apportait aux chrétiens éprouvés et persécutés le réconfort et l'espoir dont ils avaient besoin, elle adresse à l'Église de notre temps un message particulièrement actuel. En effet, notre environnement a subi plus de changements durant ces dernières décennies qu'au cours des 10 siècles précédents. L'opposition entre le monde et l'Église redevient partout net et tranché. Le conflit entre les deux puissances a repris, en bien des lieux, la forme que lui a donnée Domitien. Au dire des non-chrétiens eux-mêmes, la bombe atomique a inauguré les temps apocalyptiques. Qui sait si les années qui viennent ne nous apprendront pas à voir une dimension toute nouvelle de ce dernier livre de la Bible. après avoir répondu aux besoins de l'Église à la fin du 1er siècle par son sens historique, avoir réconforté et exhorté les chrétiens de tous les temps par son sens symbolique, il se révélera peut-être, pris au pied de la lettre, comme une prévision très réaliste des catastrophes déclenchées par une humanité qui a refusé la seigneurie du Christ. Les chrétiens vivant dans ces temps troublés, qui doivent marquer la fin de l'ère présente, trouveront aussi dans ce livre la certitude que ce déploiement des forces sataniques ne sera pas le dernier mot de l'histoire. Le dernier mot appartient à Jésus, le roi des rois, revenant en gloire. On va regarder maintenant le lieu et la date de composition. La date de rédaction nous intéresse parce qu'elle permet de préciser l'arrière-plan historique de l'ouvrage et qu'elle influence partiellement sa compréhension. Deux périodes ont été proposées, sous Néron, de 60 à 70, ou sous Domitien, 94-95. La première proposition s'appuie essentiellement sur certaines interprétations de quelques passages, par exemple l'assimilation du sixième roi d'Apocalypse 17, verset 10, à Néron. 666, donc Néro César en hébreu. La deuxième paraît plus probable, les premiers témoignages externes, donc Irénée, Victorinus, Eusèbe et Jérôme, affirmant clairement que l'œuvre a été composée vers la fin du règne de Domitien, où la persécution limitée à Rome sous Néron s'est étendue à tout l'Empire. L'arrière-plan historique du livre s'accorde aussi mieux avec la situation de la fin du 1er siècle, l'adoration de l'empereur, les persécutions et les allusions possibles au mythe du retour de Néron, répandu après 80. D'autre part, la condition des pères d'Asie, déclin spirituel de certaines églises fondées par Paul, hérésie florissante, pas d'allusion aux judaïsants, s'expliquerait mieux par une date tardive. C'est pourquoi la grande majorité des spécialistes situe la rédaction, comme l'indiquait la tradition, vers la fin du règne de Domitien, aux environs de l'année 94-95. Le lieu. Jean devait avoir près de 90 ans. Il avait été exilé sur l'île de Patmos, dans la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce, à quelques 30 kilomètres au large de la côte. C'est là qu'il a reçu les messages pour les églises et les visions de l'avenir qui les attend. Peut-être y était-il encore au moment de la rédaction. Deuxième point qu'on va regarder maintenant, c'est le contenu du livre de l'Apocalypse. Les premiers mots du livre nous en indique le thème et le message principal, révélation de Jésus-Christ. Le mot « apocalypsis » signifie littéralement « acte doté le voile ». Un voile couvre pour la plupart de nos contemporains la véritable nature de Jésus-Christ. Il reste le petit Jésus de la crèche, le prédicant de la Galilée ou le crucifié de Golgotha. L'Apocalypse nous le présente dans sa position et sa fonction actuelle. Elle est l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. Son thème unique est la victoire du Christ sur toutes les puissances adverses, victoire coûteuse comme celle de la croix, mais totale et irrévocable. La vision du chapitre 1, où Jésus-Christ apparaît comme le premier et le dernier, omniscient, omnipotent, éternel, porteur de la parole de vérité, est complété par diverses images disséminées à travers le livre, comme le lion, le rejeton d'une racine, descendant de David, le cavalier sur le chevalier blanc, l'agneau immolé, et il partage le trône de Dieu, il viendra pour juger les hommes, et il est la source de la vie. L'Apocalypse se présente comme la révélation que Dieu lui a donnée. Cette révélation de Jésus-Christ émane de l'autorité suprême de Dieu lui-même. Il a donné à son Fils tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour y établir son règne. Et il lui donne aussi la révélation des destinées futures de ce règne. Alors l'expression pour montrer à ses serviteurs, Jésus-Christ ne fait pas de révélation au monde. L'Apocalypse demeure un livre scellé de sept sceaux pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ et n'ont par conséquence pas son esprit en eux. Elle ne s'ouvre qu'à ceux qui la lisent pour mieux servir leur maître. Alors l'expression des choses qui doivent arriver bientôt. La révélation concerne donc l'avenir de l'Église. Il est vrai que le mot, traduit généralement par « bientôt », pourrait aussi être rendu par « promptement », d'une manière soudaine et inattendue. Cependant, le temps du verbe doit arriver, et l'avertissement du verset 3, le temps est proche, ne laisse aucun doute sur le contenu du livre, qui se rapporte en premier lieu à un avenir proche du moment de la rédaction. Deux pouvoirs s'opposent tout au long du livre, Dieu et Satan. Deux trônes se font face, celui du Tout-Puissant et celui de la Bête. La lutte sera longue et acharnée, les chrétiens ne seront pas épargnés, mais la victoire finale est certaine. En somme, l'Apocalypse nous offre une vision chrétienne de l'histoire, en nous donnant la perspective divine sur cette histoire. Après la vision du Christ Tout-Puissant, exhortant son Église à lui rester fidèle devant toute cette attaque hostile, qui va du chapitre 1 au chapitre 3, vient celle de l'agneau, qui ouvre les sceaux du rouleau contenant le déroulement de l'histoire humaine et inaugure la série des événements qui précipiteront cette histoire vers sa fin. Il va du chapitre 4 au chapitre 7. Donc, des cataclysmes, des guerres, la persécution de l'Église. Finalement, Babylone, la civilisation antichrétienne, est jugée et condamnée, qui va du chapitre 17 à 19. La victoire finale appartient à Dieu, qui va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, chapitre 20 à 22. Trois thèmes courent à travers le livre, le jugement, la rédemption et l'établissement du royaume de Dieu. Christ est à la fois juge, rédempteur et roi. Toutes ces vérités sont exprimées dans le langage caractéristique des Apocalypses, un genre littéraire ébauché chez certains prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, qui a connu une grande faveur durant la période intertestamentaire. Les quelques 30 apocalypses juives découvertes ont un certain nombre de traits communs. Un, elles sont toutes nées en un temps de persécution. Deux, elles emploient un langage symbolique et font appel à des visions mettant en scène des êtres surnaturels, des anges, des démons, des bêtes. Et quatre, elles annoncent le jour du Seigneur, où Dieu jugera toute la terre. Cinq, ce jour sera précédé d'un déploiement des forces sataniques dans le monde hostile à Dieu. Et six, Dieu délivrera les justes de l'épreuve. Il ressuscitera ceux qui paieront leur témoignage de leur vie. Les auteurs apocalyptiques écrivent généralement sous un pseudonyme célèbre, Enoch, Abraham, Isaac, Moïse, Élie, Esdras et Baruch. La littérature apocalyptique n'était pas très prisée par les chefs des Juifs de Jérusalem. Elle fleurissait davantage dans les régions où l'influence de la Judée se faisait moins sentir. Elle était particulièrement populaire en Galilée, qui a été judaïsée durant peu de temps et qui était loin d'être orthodoxe. Jean connaissait probablement ces apocalypses comme les connaissaient d'autres écrivains du Nouveau Testament. Il a repris certaines images symboliques d'origine persane, égyptienne, babylonienne ou grecque, qui étaient devenues monnaie courante parmi ses contemporains. Il s'est distancé des auteurs apocalyptiques par l'emploi de son vrai nom, par l'intérêt tourné non vers le passé, mais vers le présent et l'avenir, et surtout par l'atmosphère spirituelle très différente de celle de ses ouvrages apocryphes. La source principale de son inspiration est cependant l'Ancien Testament. Dans 404 versets, on a relevé 518 allusions à 24 livres de l'Ancien Testament. Plus de 3 versets sur 4 contiennent une ou plusieurs réminiscences d'images ou d'expressions des écrits inspirés de l'Ancienne Alliance. Celui qui veut interpréter correctement devra donc commencer par lire et comprendre les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. En même temps, l'Apocalypse projette la lumière de la Nouvelle Alliance sur les écrits de l'Ancienne. Elle est une extraordinaire explication de l'Ancien Testament que Jean voit rayonner dans une lumière nouvelle. C'est la lumière de son Seigneur Jésus-Christ qui pénètre et transforme toutes choses, comme les rayons du soleil et le vent percent les brumes de la forêt endormie et la métamorphose de leur gloire dorée. Troisième point qu'on va regarder, c'est le but principal de l'Apocalypse. Quelles étaient les conditions des églises auxquelles ce livre était adressé? Les lettres aux sept églises révèlent dans ces communautés une tendance au déclin spirituel. Sous la pression de l'immoralité ambiante et de la prospérité matérielle, par l'intrusion d'hérésies subtiles et par les divisions internes, beaucoup de ces communautés avaient perdu leur premier amour. L'ère apostolique connaît déjà l'automne. Comme nous l'avons vu pour les épîtres de Jean, le syncrétisme religieux gréco-oriental constituait un véritable danger pour le christianisme. Les gouvernants le voyaient d'un bon œil comme un facteur d'unification de l'Empire. Plus que cela, les empereurs, s'inspirant de l'exemple de l'ancienne Égypte et de Babylone, voulurent renforcer l'unité précaire de tant de peuples en leur imposant une religion unique, coiffant toutes les autres, le culte impérial. Après son assassinat en 44 avant Jésus-Christ, Jules César fut élevé au rang de Dieu par décision du Sénat romain. Auguste fut divinisé de son vivant. On rendait aux empereurs des cultes au cours desquels on leur chantait des hymnes, tout comme aux autres dieux. Cette politique devait nécessairement susciter le conflit avec le christianisme. Un premier choc avait eu lieu sous Néron. Domitien, son règne de 81 à 96, donnera au culte impérial une impulsion nouvelle. Il fait graver son image à côté de celle de Jupiter, de Junon et de Minerve, exige qu'on l'appelle notre Seigneur et Dieu dans les actes officiels comme dans les entretiens privés. Il fait exécuter son propre cousin, dont il avait adopté les enfants, pour en faire ses successeurs, parce qu'il a refusé de participer au culte impérial. Vers la fin du 1er siècle, ce culte commençait à se répandre dans tout l'Empire et à s'imposer par tous les moyens officiels de pression. Il était particulièrement vivace dans la province romaine d'Asie, où se trouvaient les églises destinataires de l'Apocalypse. 5 villes sur les 7 nous sont connues pour avoir possédé un sanctuaire du culte impérial. Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes et Philadelphie, et les deux autres ne devaient pas échapper à la règle. Pour la première fois, l'Église se trouvait confrontée à une exigence de principe. L'adoration de l'empereur s'opposant aux exigences de son seul Seigneur et Maître. Que faire? Comment cette situation évoluera-t-elle? Quelle sera l'issue du conflit? Telles étaient les questions que se posaient les membres de ces églises vers la fin du siècle apostolique et auxquelles Dieu va répondre par le message qu'il inspire à son serviteur Jean. Certains chrétiens ont déjà souffert la persécution. D'autres épreuves sont imminentes. Prison, faim et soif, bannissement, mort. À Pergame, Antipas a subi le martyre. D'autres ont versé leur sang ou seront appelés à le verser, à être décapités. Ils ont besoin, en premier lieu, d'être encouragés et fortifiés dans leur foi pour les épreuves à venir. Ils doivent comprendre que l'opposition du monde n'est pas un accident de parcours imprévu, mais fait partie du plan de salut de Dieu. Le Seigneur doit donc leur dévoiler ce plan et démasquer les forces agissant dans l'histoire en leur montrant que, contrairement aux apparences, c'est Christ qui seul possède l'entière maîtrise des composantes de l'histoire et seul aussi, il peut révéler le sens mystérieux de chacune d'elles. L'Apocalypse a pour but de nous montrer que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, disait le commentateur Hendrickson. Son but immédiat était de préparer les églises d'Asie mineure, touchées par la persécution, pour ce temps d'épreuve, de les encourager au témoignage par la souffrance, éventuellement par la mort, en leur présentant la gloire du prix promis aux vainqueurs. Elle réconforte les chrétiens persécutés en leur donnant l'assurance que Dieu voit leurs larmes, qu'il entend leurs prières, que leur sang sera versé et que leur victoire finale est assurée. Malgré tout, Christ règne et gouverne le monde en vue des intérêts de l'Église, et il reviendra pour amener l'épouse aux noces de l'agneau. Ainsi, comme tous les autres livres bibliques, l'Apocalypse avait en premier lieu un message pour ses destinataires originels, les églises d'Asie passant par les persécutions. C'est pourquoi non seulement les 7 lettres des chapitres 2 et 3 doivent être lues comme s'adressant à des églises historiques, dont elle relève les points forts et stigmatise les travers. Mais toute l'Apocalypse doit être interprétée en première instance comme répondant à des conditions historiques précises. Derrière la bête, qui a autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et nation, comme on le voit dans le chapitre 13, verset 7, aussi bien que dans la grande prostituée appelée Babylone la Grande, ivre du sang des saints et des martyrs, qui est assis sur 7 montagnes, Apocalypse 17, verset 9, les premiers destinataires ont dû reconnaître la Rome impériale, puisque Rome était universellement connue comme la ville aux 7 collines. Le mot désignant la marque que devaient porter tous les hommes pour pouvoir acheter ou vendre, comme on le voit dans le chapitre 13, verset 16 et 17, n'était autre que le nom usuel du sceau impérial, authentifiant tous les documents officiels et commerciaux. Or, cette puissance si impressionnante pour les contemporains s'évanouira. Sa chute est décrite prophétiquement au chapitre 17 et suivant. Et derrière ce message de circonstance, écrit pour répondre aux difficultés de l'heure dans les églises d'Asie, nous pouvons discerner l'intention divine qui voulait donner aux églises de tous les temps un message permanent. Le combat entre les deux puissances demeure le même et domine toute l'histoire du monde. Le véritable dessein du livre est donc d'aider les chrétiens de toutes les époques à s'orienter dans leur propre présent. Cela en leur proposant un exposé imagé des grands fondements spirituels et des forces bienfaisantes ou adverses qui doivent à jamais influencer la vie chrétienne ici-bas. Car le contenu de ces prophéties consiste moins en événements précis qu'en principes représentés par des images symboliques. Or, ces principes agissent tout au long de l'histoire de l'Église. Derrière les tableaux de l'Apocalypse, l'Église de chaque époque peut reconnaître les traits et les caractères fondamentaux qui composent le diagramme spirituel de son temps. Ainsi, elle pourra tenir ferme au milieu des épreuves et attendre le retour de son maître qui prononcera le verdict définitif, c'est-à-dire sur toute l'histoire de l'Église. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on va terminer la semaine prochaine.